Merci Monsieur le Président, bonjour à toutes et à tous, j'adore le générique, le nouveau générique de l'émission c'est beau, vous êtes sur la radio de l'Entre-deux-Mers 98.4 et bien il y a des effluves dans ce studio dont on vous parlera tout à l'heure parce que ça sent bon, ça sent la convivialité, ça sent le partage, ça sent un petit peu le sucre, ça sent le savoir-faire, ça sent le talent, ça sent le revisitage. Nous avons donc autour de cette table quatre invités, je dirais. Nous avons d'abord Madame Aucher qui va nous parler de son association de donneurs de sang. Nous avons le professeur Jean Saric que nous avions reçu la dernière fois avec Jean-Pierre Xiradakis. Et nous avons Stéphanie et Michael qui nous viennent d'un lieu qui n'est pas très loin d'ici, qui est à Montségur, et nous parlerons de Michael et de son épouse, de ce qu'ils font et pourquoi ils ont été invités dans cette émission. Je voudrais, avant de commencer, ça n'est pas une émission politique, saluer tout simplement le départ d'un Premier ministre aujourd'hui qui vient de démissionner, de donner sa démission. Monsieur Philippe, soyez assuré d'une retraite ministérielle paisible et souhaiter la bienvenue au nouveau ministre, Premier ministre de notre France, pays que nous aimons. Mais je le répète, nous n'avons absolument aucune ambition politique ni religieuse, puisqu'il sera question de religion. Madame Aucher,
oui.
Je voudrais vous parler de ce que vous faites. Oui, attendez, voilà,
non,
c'est ça.
Non, c'est pas, oui. Oui. Je sais pas, il y a un téléphone.
Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un téléphone qui est branché, parce que ça fait des petits grésillements? Merci d'avoir coupé vos téléphones, de les avoir mis sur off. Madame Aucher, vous êtes responsable d'une association de donneurs de sang, qui est basée où?
À Cadillac.
À Cadillac, d'accord. Il y a matière à faire.
Oui.
Oui, ben oui.
Enfin, Cadillac, Loupiac, enfin, tout le 33-410, en fait, tous les cantons autour, en fait.
Belle appellation qui a rejoint les premières côtes de Bordeaux, les vins de côte, voilà. Appellation moelleuse, liquoreuse, et je dirais malheureusement un cimetière ô combien triste, puisque c'est le cimetière des oubliés de Cadillac.
Qui est en pleine rénovation d'ailleurs.
Qui est en pleine rénovation.
Oui. Ils sont en train de faire des travaux justement.
Dans le cimetière des oubliés,
oui,
hein,
Oui, ceux des malades, oui, tout à fait. À côté du cimetière. Oui.
Qui m'a toujours un petit peu ému parce que ces personnes qui sont enterrées là... Ça fait frisson,
c'est vrai.
Quelque chose de, mais c'est bien d'y aller, de se recueillir et de penser qu'il y a des gens qui sont là et qui se reposent éternellement. Donc, donneur de sang, pourquoi, comment vous est venue cette idée? Parce que c'est une idée quand même un petit peu hors du commun.
Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, je suis une donneuse de sang moi-même, donc ça a été la priorité. J'ai mon papa qui est président de donneur de sang dans sa région.
Où ça?
À Bourges.
À Bourges.
À Saint-Florent-sur-Cher, exactement.
On salue le printemps de Bourges.
Voilà. Et puis, il fallait aider le CTS lors des prélèvements. Et ils ont été demandeurs. Et petit à petit, avec plusieurs donneurs, on s'est dit pourquoi pas. Et ça s'est monté doucement comme ça pour essayer de récupérer des donneurs, notamment des jeunes. On essaye de vous...
Bien sûr.
Notre projet... L'association vient juste de se créer, donc on est en train de démarrer. Notre projet, ce serait d'inciter nos jeunes à donner leur sang, en fait.
D'accord. Vous pensez que les jeunes n'ont pas envie?
Oh, je pense pas qu'ils aient pas envie. Je pense qu'ils ont peur.
Ils ont peur.
Ah oui, c'est la crainte de l'aiguille, c'est la crainte du sang.
D'accord. Donc
on en a, ça commence. Et puis après,
comment ça se passe? On veut donner son sang dans le coin de Cadillac. Est-ce qu'il y a des journées précises?
Oui.
Est-ce qu'il y a
se déplace. Il y a des unités mobiles qui viennent. Alors là, nous, on en a fait une avant-hier à Bégay, à côté de Cadillac.
Et sans indiscrétion, vous avez récupéré combien de donneurs?
Plus de 70 dons, on a fait en 3 heures.
70 dons, et vous prélevez combien de sang?
Ils prélèvent une moyenne de 300 à 400 millilitres à peu près. 400 millilitres, ouais, ça dépend de...
Donc 30 à 40 centilitres, mais c'est vrai qu'on parle en millilitres avec l'Europe. Donc sur 70, sur 70 donneurs.
Ouais, c'est ça à peu près.
C'est
il y
bien.
A eu 70 donneurs. On
ben
a eu
oui.
Une dizaine de refus, mais voilà.
N'oubliez pas, chers auditeurs, 98.4, la radio de l'Entre-deux-Mers, de donner votre sang, effectivement, si vous êtes jeune, de donner votre sang, parce que nous avons toujours de plus en plus besoin, puisque votre sang va permettre de donner la vie et de transmettre la vie à d'autres personnes qui sont dans le besoin. Et avec le Covid-19, il y a eu une perte sèche, je dirais, de milliers de donneurs. Et nous sommes dans une période de transhumance avec les vacances qui arrivent, les accidents de la circulation. Bref, il y a de gros besoins de sang. Et les banques, c'est comme ça qu'on les appelle, oui, de donneurs de sang sont un petit peu à court de matière d'œuvre, si je puis m'exprimer.
Je vous coupe, mais pendant le Covid, étonnamment, il y a eu, enfin étonnamment, les gens sont venus donner justement.
D'accord.
Voilà. Et ils ont peur que après cette époque de Covid, les gens reviennent à leurs anciennes mauvaises habitudes en fait.
Donc il y a eu
beaucoup de dons. D'abord parce que les gens avaient du temps, qu'ils étaient mobilisés, et il y a surtout eu moins de demandes, parce qu'il y a eu moins d'accidents de circulation, il y a eu moins d'opérations, donc il y a eu, voilà, il y a un équilibre qui s'est fait quand même pendant le Covid.
Mais c'est une très bonne nouvelle.
Ouais. Mais il faut continuer à donner, voilà.
Oui, il ne faut pas s'arrêter, quoi. Voilà, il ne faut pas que ce soit un élan de solidarité et de générosité pendant quelques semaines, et qui s'arrête brutalement. Donc pendant la période du Covid-19, donc beaucoup de donneurs de sang, ça c'est bien. Donc vous suggérez quoi ?
Je suggère quoi ? Ben, venez donner quand vous savez qu'il y a une collecte près de chez vous, ou prenez rendez-vous au centre de transfusion de Bordeaux si vous êtes à Bordeaux, et puis voilà.
Mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de dire, madame Auchère, du sang de Cadillac, du sang en appellation d'origine protégée.
C'est ça, tout à fait.
Non, mais un grand cru de sang.
Oui. Oui.
Non, mais ça, c'est...
Bon. Et du rouge, en plus.
Et
du rouge de Cadillac, comme dit le professeur Saric, qui aura la parole tout à l'heure. Oui, du rouge de Cadillac, mais rendez-vous compte un petit peu.
Mais c'est génial.
Et vous prélevez
c'est
une...
C'est pas grand-chose en plus, c'est rien.
Non, c'est vrai que cette générosité... J'ai toujours regretté de ne pas pouvoir donner mon sang, moi, tout simplement, parce qu'ayant vécu outre-mer, quand je suis revenu en France, on m'a dit, monsieur, votre sang, on ne le prendra pas, 8 ans d'Afrique, le palu, ceci, le cela. Donc je n'ai pas pu donner mon sang en France pour des raisons exclusivement... De voyage et de vie outre-mer, et donc effectivement je peux comprendre que ça peut être un inconvénient. Et maintenant j'ai passé l'âge de le donner, puisque le professeur peut nous dire c'est jusqu'à quel âge on donne son sang. 65
70 ans.
70 ans. Ah ben je peux encore donner pendant, pendant quelques mois.
Voilà.
Donc, vous êtes combien d'adhérents dans votre association ?
Pour le moment, on est 6.
6 ?
Voilà, et on récupère doucement. Voilà. Parce qu'en fait, on a créé l'association juste au moment du confinement. Donc, rien ne s'est passé pendant le confinement. Et on vient de reprendre l'activité. Là,
quelle serait votre demande auprès des auditeurs de la radio de l'Entre-deux-Mers ? Une demande simple, de dire on adhère, venez.
Ah oui, on prend tous les volontaires. On a besoin de bras, de mains. Voilà, on espère... avoir du monde pour pouvoir ventiler des bonnes informations et puis être disponible, parce que les collectes se font, il y en a certains de nous qui travaillent, moi je travaille, je ne peux pas être à toutes les collectes par exemple.
Bien sûr.
Donc ça permet de faire un roulement et d'être là pour aider le CTS lors de leur prélèvement, à accueillir les gens, à les rassurer aussi.
Est-ce que vous leur donnez un petit casse-croûte après ?
Oui, c'est prévu dans la collecte en fait. Les gens sont accueillis, vus par un médecin, prélevés et ensuite ils ont une collation.
Une collation.
On ne les laisse pas partir s'ils n'ont pas mangé, s'ils n'ont pas bu.
D'accord. Et la collation se compose de quoi ?
Alors là, il y avait des assiettes. Avec le Covid, c'était sous film. Donc il y avait une assiette salée avec une salade, une compote, un gâteau, une boisson, un café.
Ah, c'est pas un barbecue, donc ?
Non, c'est pas barbecue, non.
Sarrament de vigne, belle entrecôte,
ouais,
avec des échalotes.
Peut-être, pourquoi pas, hein. Peut-être l'association y arrivera un jour, je ne sais pas, on ne sait jamais.
Non, je plaisante.
Mais pourquoi pas ? On veut aussi créer ce genre de réunion conviviale aussi.
Parce que de donner 300 ou 400 millilitres, ça affaiblit un petit peu quand même.
Bon, ça déshydrate un peu, ça chamboule un peu. Les gens sont un peu chamboulés, ils ont l'impression de...
Oui, mais ça prend combien de temps pour donner 300, 400 millilitres ?
Alors entre le début de l'entretien et la fin, il faut 3/4 d'heure, 1 heure à peu près.
Et vous restez piqué, branché pendant combien de temps ?
1/4 d'heure, même pas.
Un quart d'heure ?
Ouais, c'est pas très très
On
long,
regarde un film en même temps, une émission de télé ?
Oh non, les gens sont sur leur téléphone maintenant.
Ah oui,
ou alors ils discutent entre eux, mais c'est beaucoup les téléphones.
Oui, c'est vrai.
Moi j'emmène un bouquin, mais bon, j'ai pas le temps de faire grand-chose.
Oui, bien sûr.
On discute beaucoup, c'est assez sympa. Ouais.
Est-ce que vous pourriez donner les coordonnées téléphoniques de votre association, madame Auchère ?
Eh bien oui, je peux vous donner mon numéro de portable, c'est le seul que je connais peut-être par
alors,
cœur en fait.
Attendez, parce qu'avant que les auditeurs trouvent leur crayon, que ce soit le bon crayon, pas celui qui a la mine cassée, ou le bic rousillé complètement...
Ils réécouteront, c'est pas grave.
Alors, les auditeurs de la radio, prenez de quoi écrire, s'il vous plaît. Oui, on vous laisse le temps. Non, madame, pas celui-là. Vous savez bien qu'il n'écrit plus. Mais non, ça ne sert à rien de le frotter sur la semelle de vos chaussures, madame. Une feuille de papier. Mais non, pas ça, c'est un justificatif dont vous aurez besoin s'il y avait un contrôle fiscal dans quelques semaines. Voilà, un petit morceau de papier, oui. Une publicité qu'on a mis dans la boîte aux lettres et qui vous fait défaut. Allez, on y va. Le numéro de téléphone. Alors, pour prendre contact avec Madame Aucher, son prénom ?
Sylvie.
Sylvie. Mm. Nous vous écoutons.
Alors, c'est le 06.
Je répète, 06.
98.
98.
80. Non, 4. Bah oui, je suis 93, pardon.
Alors, attendez, vous effacez tout. Ouf, on recommence.
Alors, un 06. Crayon.
06, 98. 98
93.
93.
13.
13.
10.
10. Répétez-le tout
06,
doucement.
06, 98, 93, 13, 10.
Au téléphone, vous allez avoir une personne avec des yeux ravageurs qui me rappelle les lagons de l'île Maurice.
Là, tout ça.
Mais il doit y avoir un requin caché derrière.
Il y en a, oui.
Des cheveux blonds, une bouille fort sympathique et une dame adorable. Sylvie Aucher. Donc vous êtes la présidente de l'association.
Oui, oui.
Présidente de l'association des donneurs de sang de cette belle ville de Cadillac, en Sud-Gironde, entre Bordeaux et Langon, mais sur la rive droite. La rive d'une ville manchote qui pendant des années a été oubliée tant qu'il n'y avait pas de pont. Rappelez-vous, la rive droite n'existait pas. Il y a des médocains, moi que je connais, qui n'ont pas franchi le pont et un pont de Bordeaux leur permettant d'aller de l'autre côté de la rive. La rive droite est une rive absolument magnifique. Et nous sommes dans une région ici somptueuse. Nous sommes à Sauveterre-de-Guyenne, nous sommes au cœur de cet entre-deux-mer. Région tellement belle, tellement agréable. Où sévit le professeur Jean Saric, et dont nous vous allons parler tout à l'heure. Maintenant, il est 14h10, on reviendra vers vous, Madame Aucher, ne vous inquiétez pas. On a une heure pour s'exprimer, et nous allons écouter un premier morceau de musique qui avait été un petit peu loupé la dernière fois, on s'était trompé. Elle se prénomme Ghislaine, elle se nomme Mileto. C'est une auteure-interprète qui nous vient de Haute-Savoie et elle fait des slams, et notamment un slam franco-italien qui s'appelle Marina de Andorra. Donc on va écouter ce slam de Ghislaine Mileto, auteure-interprète, chanson franco-italienne. La mafia n'a rien à voir avec cette chanson, je le précise. Hein. Monsieur le président de la radio, je vous remercie d'avoir programmé cette chanson ô combien sympathique. Et nous allons pouvoir continuer l'émission en parlant gourmandise, en parlant avec le professeur Saric. On n'a que des invités de qualité et nous sommes très fiers de les recevoir.
Il a plu ce jour sur Andorre, quelque part dans le nord de l'Italie. Autrefois surnommée pour son petit port Marina di Andorra. Il a plu ce jour sur la plage le long de la Riviera. Le soleil rose dessine des traînées dans le ciel en se rapprochant de l'horizon velouté. Et le clapotis de l'eau me transporte sans difficulté à ma propre réalité. Mon cœur d'enfant interroge inlassablement mon cœur d'adulte et lui dit « Souviens-toi ». Le décor est angélique, cependant la montagne ne rejoindra jamais l'horizon pour caresser la mer comme dans vos rêves d'enfant. Seul votre sourire désormais absent s'intègre en surimpression à ce doux spectacle et me chuchote « Tu vois, j'avais raison ». È piovuto questo giorno su Andorra, qualche parte nel nord dell'Italia. Una volta Andorra era chiamata Marina di Andorra per il suo piccolo porto. È piovuto questo giorno sulla spiaggia lungo la riviera. So bene che niente durerà, lei me l'ha tanto narrato. Improvvisamente una voce dentro di me suona come un rimprovero. Avresti dovuto approfittarne, ma però non sono stata capace di ascoltarla. Le coucher du soleil est identique à celui de mon enfance et ses couleurs illuminent mon cœur dans une infinie torpeur. Vous souvenez-vous de nos rires d'enfants pendant nos vacances déchirant le silence des soirs d'été sur notre terrasse mal éclairée où deux lézards téméraires venaient régulièrement nous observer tout en clignant des yeux. Le décor naturel, je m'en rends compte aujourd'hui, me paraît plus nuancé que dans mes souvenirs et bien plus beau. Il a plu ce jour sur Andorra, quelque part dans le nord de l'Italie, autrefois surnommée pour son petit port Marina di Andorra. Il a plu ce jour sur la plage le long de la Riviera. Je ne suis pas sans savoir que rien ne durera. Vous me l'avez tant narré. Soudain, une voix intérieure murmure tel un reproche. Tu aurais dû en profiter, mais hélas, je n'ai jamais su l'écouter. Les dauphins, non loin du rivage, ignorant ma peine, semblent nous adresser un ultime sourire avant de plonger dans les flots gris argentés. Ni le futur ni les aides ne modifieront le passé, mais je pense que peut-être, comme l'affirmait un poète, un seul être vous manque et tout est dépeuplé. E piovuto questo giorno su Andorra, qualche parte nel nord dell'Italia. Una volta Andorra era chiamata Marina di Andorra per il suo piccolo porto. È piovuto questo giorno sulla spiaggia lungo la riviera. So bene che niente durerà, lei me l'ha tanto narrato. Improvvisamente una voce dentro di me suona come un rimprovero. Avresti dovuto approfittarmi, ma però non sono stata capace di ascoltarla. Le saurez-vous peut-être que j'ai écrit cette lettre, un instant de profonde tristesse tout en pensant à vous? Existe-t-il une poste direction le ciel, où ce courrier comme une bouteille à la mer inondera votre cœur et apaisera le mien? Forse esiste una posta dove si può spedire una lettera per il cielo, solo una, dove questa corrispondenza come una bottiglia al mare riempirà il suo cuore e tranquillizzerà il mio. Il a plu ce jour sur Andorra, quelque part dans le nord de l'Italie. Autrefois surnommée pour son petit port, Marina di Andorra. Marina di Andorra.
Très joli slam et très bien chanté, si je puis dire. Nous avions accueilli il y a quelques semaines le professeur Jean Saric avec... Monsieur Jean-Pierre Xiradakis, le restaurateur de Bordeaux, restaurateur de Bordeaux, on peut le dire, basco-grec, comme il se nomme lui-même. Jean Saric, éminent professeur à l'hôpital de Bordeaux, spécialisé dans les maladies du foie, bien entendu, est ici à un titre bien tout à fait original, puisqu'il est trésorier d'une association, et j'aimerais qu'il nous présente un petit peu cette association, parce qu'elle est au cœur de l'entre-deux-mers et nous avons besoin de tous les auditeurs et de toutes les forces, je dirais, qu'elles soient populaires ou politiques, pour aider à la sauvegarde de quelque chose qui nous tient à tous à cœur et dont nous sommes respectueux. Jean, fierté de te recevoir, fierté d'être en face de toi. Toi aussi, tu as des yeux coquins, tu as des yeux magnifiques. Bon. Et j'imagine qu'il était une fois, hein, dans la ville de Foix, un marchand de Foix qui n'avait pas la foi, mais ça, on a dû te la faire et te la refaire. Explique-nous un petit peu le but de cette association, à quoi elle va servir et ce dont vous avez besoin.
Alors, d'abord, merci pour les compliments, mais comme je vois que tu fais les mêmes compliments à tout le monde, je suis inquiet sur la véracité de ces compliments.
Je laisse parler mon cœur. Je laisse parler mon cœur. C'est un autre organe.
Purement pour te taquiner. Voilà. Donc notre association. Moi, j'habite l'entre-deux-mers depuis X générations dans une vieille maison familiale qui est à Lugasson. Et à côté existe la commune de Frontenac où existe une vieille église romane abandonnée et délabrée qui s'appelle Sainte-Présentine. Où enfant, j'allais à la messe avec mes parents quand j'étais gamin. Voilà. Et donc, il y a 50 ans, il n'y a plus de culte dans cette église. Elle est abandonnée. C'est une église très ancienne, hein, qui est du XIIe siècle, très minimaliste, voilà, avec une seule nef du début du roman. Enfin, il y a à peine travaillé, voilà, mais qui est au milieu. Elle devait être au milieu des bois, maintenant elle est au milieu des vignes ou des céréales. Voilà. Mais c'est un joli lieu. C'est un lieu qui est symbolique, c'est un lieu qui a été un lieu de templiers ou d'hospitaliers, où il y a une tombe hospitalière dans le cimetière. Et c'est pas loin de la commanderie de Salbruno, qui est aussi un grand fief des hospitaliers quand ils sont revenus des croisades. Voilà. Et donc, pourquoi on a créé cette association avec quelques amis ? Nous sommes des marcheurs et chaque année nous faisons au moins deux marches ensemble avec des amis et en France, qui sont dans les pays de vignobles. Voilà, donc on traverse la France, on fait de bons repas le soir, mais on fait 25 km par jour. Hein, donc voilà, on est sportifs et conviviaux. Voilà.
Donc ce ne sont pas les chemins de Compostelle.
Non, ce n'est pas les chemins de Compostelle qui sont trop religieux pour nous, mais nous aimons les sites religieux quand même pour leur symbolique et leur spiritualité. Voilà.
Bien
sûr. Et donc plus aucun de nous n'est religieux, mais on aime la spiritualité qui va dire non confessionnelle. Voilà. Donc ces lieux qui ont été des spiritualités confessionnelles nous parlent encore, bien sûr, parce qu'ils disent beaucoup de choses. Voilà. Et donc, il y a quelques années, nous marchions dans l'Entre-deux-Mers. Donc, moi, j'avais invité ma troupe d'amis. Voilà, et on a redécouvert avec eux. J'avais fait un circuit des églises romanes, qui sont celles de Courpiac, de Lugasson, de Sessac. Bon, et on a été voir celle de Sainte-Présentine. Et là, on s'est dit, mais il faut faire quelque chose. Cette petite église est abandonnée. Et on aime le lieu. Et ben, on va monter une association. Donc, moi, je suis le
trésorier.
Le régional, oui. Mais le régional de l'étape. Voilà. Jean-Pierre Dziaradakis, qui est un vieil ami, est. Voilà,
que nous saluons aujourd'hui, il apporte ses excuses, il ne pouvait pas être présent.
Et nous avons un autre ami qui est écrivain, qui est Jean-Paul Kaufmann, qui est dans le groupe de marcheurs, et qui lui aussi est
que je connais très bien.
Que tu connais aussi, Jean-Paul Kaufmann. Voilà. Donc c'est ce groupe-là, on s'est dit, ben, avec d'autres amis, on va faire quelque chose pour cette église. Donc on a été voir la maire de Frontenac, Madame Mugron. Et on lui a dit, bon, on va monter une association, on va même la baser à la mairie et on va aller chercher
des fonds,
des idées et des fonds, voilà. Et les deux attirant l'un l'autre, je ne sais pas comment on va faire. Voilà.
Bien sûr.
Donc l'association, c'est la sauvegarde de Sainte-Présentine, voilà, c'est tout simple. Voilà.
Donc Frontenac n'est pas une ville uniquement composée de cailloux et de pierres, puisque la pierre de Frontenac était quand même connue, puisqu'il y avait même une voie de chemin de fer qui emmenait les pierres sur Bordeaux.
Absolument.
Qui est devenue donc cette piste cyclable.
Roger Lapébie.
Roger Lapébie, les frères Lapébie, 1936-1935. Roger et Jacques, je crois. Non, Roger.
Le Roger, c'est celui de la piste, hein, c'est celui qui, mais c'est un sprinteur. Je crois qu'il n'a pas gagné le Tour de France, mais c'est un grand sprinteur.
Il a gagné des étapes
en ligne. Oui, oui, absolument, parce que c'était un sprinteur.
Mais ils avaient refusé la médaille d'or aux Jeux Olympiques de Berlin parce que c'est Hitler qui leur avait remis.
Ah, je ne savais pas ça.
Oui, il y a eu un scandale à l'époque parce que les frères Lapébie ont refusé une médaille olympique.
Ah, c'est intéressant ça, je savais
pas. Oui, 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 tout à fait. Moi, je connaissais bien. Alors, il y en a un qui avait un restaurant cours Clémenceau.
Oui, en haut de Clémenceau, place Gambetta.
Roger et Guy. Oui, Roger et Guy.
Oui, oui.
Il y en a un qui avait la brasserie.
La brasserie Lapébie, elle s'appelait.
Exactement.
Quand on était en enfant, on allait à la brasserie Lapébie. Oui,
alors, on dit le cours Clémenceau à Bordeaux, mais je crois que c'est une faute de français puisqu'il n'y a jamais eu d'accent sur le E. Et que M. Clémenceau, qui se fait appeler Clémenceau, c'est Clemenceau.
Oui, un bon.
Eh oui, le brave homme n'a jamais eu d'accent sur son nom de famille. Donc le cours Clemenceau.
Nous, on apprend plein de choses ici. Alors, on va t'écouter.
Sainte-Présentine, Jean. Oui, tu disais.
Alors, Sainte-Présentine, on a cotisation annuelle est de 20 euros, voilà, mais les dons supérieurs ne sont pas refusés, bien sûr.
Donc, il faut s'adresser à la mairie de Frontenac.
Oui, à la mairie de Frontenac, à l'adresse de la mairie de Frontenac.
Est-ce qu'on accepte également la main-d'œuvre
Oui, probablement. On est en train d'y réfléchir parce que nous avons fait déjà travailler un architecte qui est spécialiste des monuments historiques. Voilà. Donc nous avons un devis que nous trouvons un peu lourd, mais on va segmenter ce devis en d'abord le clos et le couvert. Voilà, et on va demander une aide de la DRAC. Qui est un monument historique. Voilà. Et donc, une partie de ce qu'on doit faire, l'entretien autour, la restauration du cimetière, le mur de clôture peut être fait avec du bénévolat. Donc on a besoin de bras aussi. Voilà.
Bien sûr.
L'argent n'exclut pas les bras et les bras n'excluent pas l'argent. Hein. Si vous faites les deux, on est preneur aussi.
J'entends bien.
Et on fera des pique-niques avec Dziaradakis. Donc, vous aurez le repas servi par un restaurateur célèbre. Donc,
un homme au grand cœur et voilà. Qui a des cailloux dans la gorge. Jean-Pierre Dziaradakis, la Toupinade Bordeaux, que vous connaissez toutes et tous, puisque son établissement avait été sacré meilleur bistrot, oui, on peut le dire, meilleur bistrot du monde.
Du monde, oui, absolument.
Par le New York Times, je crois.
Oui, absolument.
Donc, meilleur bistrot du monde. Et ça, c'est Jean-Pierre qui l'a fait avec toute son équipe. Et nous saluons toute l'équipe de la Toupina et toutes les équipes de la rue de la Porte de la Monnaie,
oui,
là où il officine encore, puisqu'il y a toujours son enseigne et que ça continue. Donc Sainte-Présentine a besoin je dirais, de retrouver, non pas sa première jeunesse, parce que le XIIe siècle, c'est loin, ça remonte à 8 siècles, on va le dire, à peu près. Hein. Maintenant, n'oubliez pas qu'un siècle, c'est 36 000 jours. Hein. 3 fois 8, 24, ça fait 250 000 jours qu'elle a été construite.
Oui, c'est pas...
Ramener à l'unité l'espérance de vie d'un être humain étant de 28 000, si mes souvenirs sont exacts, 84 ou 85 années, 28 000 jours d'espérance de vie sur cette planète, c'est rien du tout. Quand on dit que le temps passe vite, le temps, lui, ne passe pas, il ne le bouge pas, c'est nous qui passons vite. Et je ne suis pas pessimiste. Donc, Sainte-Présentine, on va à la mairie de Cadillac. La mairie de Cadillac.
Ah non, mélangez pas les sous, hein.
Non, non, non. ne mélangeons pas les sous avec le sang. Vous, ce qu'on pourrait faire, c'est vous mettre en relation avec Roscoff ou les Cévennes, puisque ce sont des productions d'oignons et on pourrait faire du boudin. Mais ça, c'est une autre histoire. L'oignon rose de Roscoff.
Les gens qui ont peur du sang.
donc, on parle bien entendu de Frontenac. De Sainte-Présentine, cette petite église qui est au milieu de, tu disais, de vignobles, de... Le terrain appartient à qui, en fait, à l'heure actuelle ?
Alors, la majorité du terrain autour appartient à la famille Saillant, qui sont une des tombes familiales, et dans le cimetière de Sainte-Présentine.
D'accord.
Et la famille Saillant nous soutient pleinement. Voilà. Régis Saillant, qui est un des deux frères, fait partie de notre association, dont nous avons des locaux aussi. Il n'y a pas que moi comme local, il y a Régis Saillant, voilà, qui est très impliqué, voilà, aussi, qui s'intéresse à ça. Tu parlais des pierres de Frontenac. D'ailleurs, je profite de la présence à cette antenne pour envoyer un petit mot à M. Régnier, qui est le patron des pierres de Frontenac. Nous cherchons quelques pierres de frise pour restaurer le haut des murs avant de faire la toiture. Donc peut-être que M. Régnier nous aidera, je suis même sûr.
Bien sûr.
Aidera, voilà, mais
bien sûr.
Je profite de lui dire ça en direct, sans l'avoir vu directement. Mais voilà.
Très bien, mais M. Régnier,
si
vous savez maintenant ce qu'il reste à faire.
Absolument.
C'est de prendre rendez-vous avec Jean Saric et de savoir juste le jour de la livraison pour qu'il soit présent. Pour faire les photos avec le journal Sud-Ouest et avec TV7, pour que cela soit largement médiatisé. Mais vous pourriez peut-être aussi vous adresser auprès de M. Missing à Bordeaux, qui a été meilleur ouvrier de France, qui a été meilleur tailleur de pierre, qui... Je ferai le lien avec la famille Missing, qui est une vieille famille bordelaise. Du quartier de Tourny, des tailleurs de pierre.
Il y a une très bonne équipe aux pierres de Frontenac, à la carrière de Piquepoche, qui est une des carrières principales de M. Régnier, et des pierres de Frontenac, il y a des tailleurs de pierre. Oui, absolument.
J'ai quelques vieux objets pour tailler les pierres, les scier, qui m'avaient été donnés par Jean Missec quand il a créé son musée des objets qui permettent effectivement de travailler la pierre. Il était rue de Turenne, lui, à côté de Faudaudège,
rue de Turenne.
Il avait des centaines et des centaines de pièces d'objets insolites. Je dirais comment deux hommes pouvaient-ils tenir une scie aussi grande, aussi importante, et faire le travail qui a été fait. Les tailleurs de pierre, mais Bordeaux est une ville absolument somptueuse pour ça. Puis un homme qui en parle bien, c'est Richard Zeboulon. De la ville de Bordeaux, à travers ses bouquins, à travers les mascarons, à travers la franc-maçonnerie bordelaise. Bref, on va écouter un deuxième morceau de musique. J'ai laissé le soin à notre ami, monsieur le président de la radio de l'Entre-deux-Mers, qui se prénomme Francis et qui se nomme Virepinte. Quel est le morceau qui va être présenté, Francis ?
C'est notre ami Zach. C'est Varum.
Ah. Grand prix de l'Eurovision dans les années 60. Alors, c'était l'époque où l'Eurovision avait toute sa raison d'être, où les chanteurs ou les chanteuses représentaient leur pays, où les chanteurs et les chanteuses chantaient dans la langue du pays. Dans la langue du pays. Varum, rappelez-vous, dans les années 60. Je sais, vous n'étiez pas né. Vous n'étiez pas né.
Camille Ophelgen.
Comment ?
Camille Ophelgen.
Camille Ophelgen, Varum. Une grande chanson, c'était juste l'année d'avant, une autre chanson qui avait remporté l'Eurovision pour le Luxembourg, c'était France Gall qui chantait Poupée de cire, Poupée de son, et c'était l'année d'après Varum. Donc ça s'était passé en Allemagne, et notre ami, eh bien on va écouter Varum, parce que c'est une belle chanson, et tout en allemand, c'est guttural, messieurs les teutons et les teutonnes, c'est pour vous.
Nachts geh ich dahin, bin allein und frag warum. Die Tage gehen mir nicht aus dem Sinn. Und ich frag mich, warum? Du gingst fort, wohin? Ich rief dich oft, doch du bliebst stumm. Du fühlst es nicht, wie einsam ich bin. Und ich frag mich, warum? Sag, warum? Ich wollte glücklich sein, doch du ließ mich allein. Wann kommst du zurück? Sag, wann scheint uns das Glück? Oh ja, das wäre schön, bei dir zu sein, mit dir zu gehen. Doch ich bin einsam, bin immer einsam. Und ich frag mich, warum? Sag, warum?
Souvenir, souvenir, et oui, c'était dans le début des années 60. Nous avons donc rendez-vous avec l'émission c'est bon sur la radio de l'Entre-deux-Mers, 98.4, votre fréquence préférée. Et nous allons nous balader, donc nous nous baladons dans l'Entre-deux-Mers. Nous sommes partis de Cadillac avec Sylvie Auchère, qui nous a parlé de l'importance que c'était de prendre conscience, et bien effectivement, d'aller et de donner son sang, le sang pour les autres, le 100%, tout simplement. Le 100%. Il faut y aller. On en reparlera tout à l'heure, ma petite Sylvie. Elle a des lunettes rouges. C'est original. J'aime beaucoup le rouge. On dirait un frère, une sœur. Enfin, plutôt, je n'allais pas dire une maman et son fils. Hein. Ça serait plutôt le papa et sa fille. Jean Saric nous a parlé de Sainte Présentine. Il en reparlera encore tout à l'heure. Et je suis accompagné de Stéphanie et de Michael. Vous décrire Michael. Je dirais, il a le crâne dégarni, il a le béret vissé sur la tête, ce côté un petit peu landais, ce côté un peu basque, gascon en règle générale, le vrai béret gascon, vous le reconnaîtriez parce que vous l'avez vu bien entendu à la télévision, sur une chaîne de télévision concurrente à celle où je travaille, qui s'appelle M6. La petite chaîne qui monte, rappelez-vous, non, c'est une chaîne de télévision, et je plaisante quand je dis la petite chaîne qui monte. Toutes les chaînes de télévision ont le droit d'exister, et la concurrence, à partir du moment où elle est loyale, il n'y a pas de problème. Alors, tout d'abord, tu es ici parce que tu travailles et tu as ta propre entreprise à Montségur. Tu es un artisan, tu travailles avec ton épouse qui est ici présente. La décrire serait un viol radiophonique, donc je ne la décrirai pas. Elle est d'origine mexicaine, une très belle femme, très bien habillée, avec un côté, je dirais, d'un autre siècle, mais un côté sympathique, un côté agréable. Elle a les yeux couleur noisette, on dirait un petit écureuil, et dans les cheveux fleurissent des fleurs. Ces fleurs qu'elle a dans les cheveux faneront, elle ne fanera jamais. Je ne la drague pas, je la complimente. Voilà. Madame ou mademoiselle, vous représentez bien entendu une zone géographique que nous aimons particulièrement bien, puisque c'est l'Amérique centrale. Il y a des vins au Mexique absolument exceptionnels, et notamment dans la Baja California. Je pense notamment à la Cheto, une vieille famille italienne qui s'est installée au Mexique dans la deuxième moitié du 19e siècle et qui fait des vins avec des cépages méditerranéens, petite Syrah, Grenache, Mourvèdre, qui sont des purs bonheurs, et le cépage, c'est à trouver sa notion, je dirais, à trouver son terroir au Mexique. Voilà. Vous êtes originaire de quelle ville au Mexique ?
Alors, je suis originaire de la ville de Mexico, mais j'ai grandi à Guadalajara.
Très bien, je ne répéterai pas. Répétez-le.
Guadalajara.
Voilà, très bien. Et vous êtes donc la compagne ou l'épouse de Michael, ici présent, et vous êtes un couple tout à fait adorable. Et si toutefois vous aviez des enfants, vous m'en gardez un, s'il vous plaît. Alors.
on en a qu'un, donc on va le garder comme
ça. Il n'y en a qu'un ? Comment il s'appelle ?
Il s'appelle José André.
José André, si tu écoutes papa et maman, ils te font des gros bisous et nous aussi. Quel âge il a ?
Il a 7 ans.
7 ans déjà.
Oui.
Vous l'avez eu très jeune, vous aviez 12 ans donc.
Alors. Moi j'approche la quarantaine.
Comment ?
Ah ouais, oui.
Mais comment vous faites ?
Eh ben, je mange des bons gâteaux et du bon pain.
Et du bon pain. Et du bon pain, parlez-en. Et parlons-en parce que la guerre a été déclarée entre pain au chocolat et chocolatine. Moi, j'avais botté en touche et j'avais dit chocopintine.
Ou pain au chocolatine.
Oui.
On a une petite cliente à la boutique qui nous a sollicité, ce mot.
Le pain au chocolatine.
Le pain
comme
au chocolatine.
Ça, tout le monde est content.
Tout le monde est content.
Voilà, tout le monde est content. La guerre de la chocolatine. Michael donc a participé au concours de M6. Alors, vas-y, présente-toi. Donc tu as ton entreprise, enfin ton entreprise, bien entendu, c'est une entreprise, mais ton lieu d'exprimation, ton lieu où tu t'exprimes, c'est tu es un artisan. Tu choisis toi-même tes cépages de céréales. Alors, on peut parler de cépages de raisin qui donnent naissance au vin, cépages de lait qui donnent naissance au fromage, mais on peut parler de cépages de farine qui donnent naissance au pain.
Tout à fait. Donc nous avons créé donc notre boulangerie-pâtisserie.
À Montségur.
À Montségur, donc en Gironde. Et on fait aussi donc nos chocolats et nos glaces aussi maison, aussi notre confiserie aussi maison. Donc nous sommes artisans indépendants. Et donc justement, c'est
indépendant et libre.
C'est ça. C'est pour vraiment reprendre l'idée de l'identité. Et on va pouvoir se différencier avec nos concurrents et puis avoir nos valeurs qu'on va pouvoir mettre en avant dans nos rayons en allant chercher donc notre terroir qu'on va réussir à transformer et à sublimer pour proposer nos produits. Donc il n'y a pas de compromis sur la qualité. Il faut qu'on ait des très belles matières premières et pour réussir à faire des produits de belle qualité pour que nos clients soient ravis quoi et qu'ils se
donc,
conservent et qu'ils soient sains.
C'est on important. Parle de matière d'œuvre. La farine, il faut savoir la sélectionner. L'homme qui a commencé à faire sélection de farine dans les années 60 rue du Cherche-Midi à Paris, c'était Lionel Poilane, qui a été un petit peu le rénovateur et l'instigateur de ce que l'on pourrait appeler la remise en avant du pain traditionnel. Aujourd'hui, un boulanger qui adhère à des fédérations, qui adhère à des syndicats, qui adhère à du grand patronat qui va lui imposer des stocks de farine, qui va lui imposer des quintaux de farine, des prémix qui sont tout mélangés et qui n'ont aucune saveur, aucune consistance. Quand je vois les publicités, allez, on peut le dire, après tout, on est sur la radio. Vous prenez Paul, par exemple, le boulanger Paul, qui vous dit du pain frais toute la journée. Bien sûr qu'il est bien frais, il est à moins 18, donc il est même très frais, le pain. Ensuite, vous décongelez la pâte et vous la mettez en cuisson. Bien entendu qu'il est cuit sur place, on ne peut pas le cuire sur le trottoir. Donc le personnel fait tout. Le personnel cuit le pain, le personnel a des timings, c'est du McDo du pain. Quand il vous dit qu'il est boulanger depuis 1886, non, ils n'ont plus le droit de s'appeler boulanger. Donc c'est une maison de pain, pain fantaisie et de tradition depuis 1886. Qu'est-ce que vous avez mal vieilli chez Paul ? Franchement, très sincèrement, c'est de l'industrie, c'est du surgelé. J'ai rien contre, de temps en temps ça peut dépanner, mais foutez la paix aux artisans qui ont le droit d'utiliser le mot boulanger, pâtissier, fabriqué chez moi, à la maison, avec mes farines que j'ai sélectionnées moi-même et qu'on ne m'a pas imposées dans un sac que je vais payer. Parce que très souvent, eh ben, que se passe-t-il ? Ces gens-là sont caution pour vous. C'est-à-dire que si vous faites un emprunt à la banque, les minotiers vont vous cautionner, vous prêter de l'argent, vous êtes pieds et poings liés, vous avez une liberté imposée. Michael, il est libre. libre comme le vent d'acheter sa farine où il veut, de faire lui-même ses mélanges de céréales pour obtenir une base finale qui sera sa recette. Et si vous allez vous balader du côté de Montségur, le Béret Gascon, ne vous arrêtez pas. Restez-y une heure, une demi-heure. C'est à consommer sans modération. Tu as remporté le prix de la meilleure chocolatine.
J'ai remporté le prix de la meilleure. On a participé donc à la meilleure boulangerie de France, hein, sur M6.
Oui.
Donc on a fini en finale, donc on est finaliste. On a fini deuxième sur 90.
Deuxième sur 90. C'est ce que nous avons dans le studio ici. Alors, Michael et Stéphanie, en dehors de votre présence, vous êtes un couple tout à fait délicieux. Et je voudrais dire que ce que nous avons devant les yeux, j'aimerais que tu nous expliques un petit peu ce que tu nous as apporté. Tout d'abord, il y a le béret que nous n'avons pas encore dégusté. Le reste, j'en ai encore des saveurs dans la bouche qui sont à la limite de l'outrage. Je viens de manger un bonbon. Un bonbon, et je voulais saluer les responsables de la société Haribo à Aubagne, à côté de Marseille. Ils recevront après le Covid-19, ils recevront leur colis de colorants et de conservateurs qui étaient bloqués en Chine. Mais ça va arriver, ne vous inquiétez pas. On arrive à pied par la Chine, mais ça va finir par arriver. Mais la tension monte entre la Chine et le Pakistan aussi. Donc je disais, devant nous, nous venons de déguster de véritables bonbons élaborés. Et pas fabriqués, élaborés, avec amour et passion. C'est des bonbons, pourquoi je disais Haribo ? Bien tout simplement parce que ce sont des bonbons qui ressemblent, mais c'est le contraire, c'est les autres qui ressemblent à ça. Explique-nous tes bonbons, comment tu les fabriques, et ces sucreries absolument magnifiques, je viens de l'avoir en bouche, je n'ai pas croqué dedans, alors c'est de la gélatine, ça ressemble à de la gélatine, vous mettez la langue, vous appuyez au palais, et vous laissez faire. Tout doucement, ça fond. Vous avez un équilibre entre le sucre. Vas-y, je te laisse parler.
Donc oui, c'est vrai qu'à l'origine, donc, ce sont des produits d'artisans. Là, c'est de la confiserie traditionnelle d'autrefois. Et donc ce genre de produits ont été copiés par les industriels, forcément, et donc jusqu'à prendre le monopole, quoi. Haribo a pris l'ensemble du marché, hein. Donc moi, je suis un peu un irréductible gaulois et j'adore manger des bonbons. Et j'ai mangé ça beaucoup quand j'étais jeune. Et je mangeais des bonbons qui étaient vert fluo, qui étaient violets, qui étaient orange, toutes les couleurs du monde. Et au final, on mangeait en fait que des choses qui sont pas bonnes. Et on le sait clairement, là d'aujourd'hui, on le sait, on peut plus nier que tous ces produits-là, ça nous détraque les organes. À un moment donné, on chope des maladies, on comprend pas pourquoi. Donc arrêtons de nous intoxiquer. En plus, ce sont pour nos enfants, parce que c'est beaucoup les enfants qui mangent ça. Donc je me dis, moi, j'ai pas envie d'intoxiquer mon fils. Des bonbons, moins de bonbons à la limite, mais qui mangent des vrais bonbons, mais que ça soit génial.
On demande à des gamins de se laver les mains avant de passer à table, et on leur donne de la merde à manger.
C'est ça.
N'oubliez pas que ce que vous mettez dans votre bouche va toucher l'intérieur de votre corps et vos organes. Le tube digestif qui fait plusieurs mètres, le foie, la rate, les reins, le cœur, les poumons, tout ce que vous mettez dans votre bouche va toucher et traverser vos organes. Donc arrêtez de donner des cochonneries à vos enfants que vous payez 48 euros le kilo.
C'est ça.
48 euros le kilo de sucre et de colorant. Si c'est pas une honte, ça... Ça devrait être interdit. Vas-y, continue, mon gars. Je suis énervé.
Donc, voilà, donc le parfum, le goût et la couleur, on va pouvoir les retrouver par rapport à du fruit, en fait. Donc, nous, on se sert, comme du temps jadis, du fruit. Et pour donc c'est sans colorant et sans arôme et l'idée pour finaliser pour pouvoir toucher le plus grand nombre d'enfants, ben on le finit aussi, on utilise de la gélatine de poisson. Alors c'est halal, c'est ça. C'est un parti pris parce que ça coûte deux fois plus cher, hein. La réalité elle est là, c'est que ça coûte deux fois plus cher qu'une gélatine porcine ou bovine, mais au final on va jusqu'au bout du produit en fait. Mais ça demande vachement de manutention, c'est très très long à faire parce que entre Haribo et puis nous, on est pas du tout dans la même dimension. Par contre là on a un produit, ben quand on le goûte, on le met sous le palais, ça fond tout de suite, c'est juste génial. On a un produit qui est hors du temps, en fait. Voilà. On est très peu nombreux en France à pouvoir proposer un produit comme ça. Mais moi, ça me tenait à cœur de faire quelque chose de bien, quoi, tout simplement. Donc, on fait aussi les guimauves dans ce même esprit. On a des guimauves qui sont parfumées.
Guimauves fraîches montées à 116 degrés pour le sucre. Voilà. On monte tout doucement les blancs d'œufs. On met des arômes naturels.
Mais là, avec le fruit, pas des arômes naturels. On va aromatiser, si on veut, mais par la purée de fruits.
Qu'est-ce que c'est bon.
Et là, l'idée, c'est de retrouver des goûts simples, en fait. C'est
Des goûts naturels.
Des goûts naturels.
Le vrai goût des bonnes choses et non pas le vrai goût des industriels.
C'est ça. Donc ça, c'est une petite pépite qui on voulait vraiment faire parce que c'est chouette, quoi. Ça nous fait pour les enfants, et les enfants, il faut qu'ils mangent aussi sainement. À la chocolatine, l'idée, c'est de faire des produits sains. C'est-à-dire qu'avec notre pain, tous nos pains sont faits à partir de levain naturel maison, donc qu'on nourrit.
Tu l'as commencé quand, ton levain ?
Ah, ça, c'est pour tout vous dire la petite histoire. Nous sommes arrivés à Montségur, on s'est fait accompagner par notre ancien patron, parce qu'on a travaillé 11 ans en région parisienne, et donc il nous a envoyé son chef boulanger pour nous aider à nous mettre en place. Ce levain, cette transmission. Et donc ce levain vient donc de chez Franck Debieux, un ponte de la boulangerie. On a ramené un petit peu de son âme, en fait, dans son...
Comme un vinaigrier.
C'est ça, c'est important d'avoir cette souche-là, voilà, et donc cette identité qu'on a pu ramener. Et puis nous, on se l'a approprié avec nous, et puis au fur et à mesure du temps. Donc tous les jours, il ne faut pas laisser orphelin son levain, quoi. Tous les jours, il faut l'entretenir. Sinon, on a un pain. Mais il faut savoir la petite histoire quand même, c'est que quand on va marquer pain au levain, il existe aussi nous, on est dans la région de vin, il y a le bib, il y a des cartons de vin en bib, là, on a le verre au vin, le vin au verre, et c'est la même chose pour le levain. Donc quand vous voyez marqué pain au levain, ça ne veut pas dire que c'est un levain maison, c'est-à-dire que c'est un levain qui peut être aussi en carton, sous vide. Et donc c'est une folie, parce que moi, mon levain, je le laisse orphelin une matinée, il est pas d'accord, hein. Et le lendemain, le pain, ça sera pas bien du tout. Par contre, leur levain, eux, qu'ils mettent sous vide, eh ben, ils vont le conserver 2-3 semaines. Moi, il y a un malaise là-dessus, quoi. C'est-à-dire, c'est attention à l'appellation pain au levain, même. Voilà, il faut ramener quand même, refaisons des choses simples comme du temps d'avant, comme du temps d'avant-guerre. Avant, les boulangers, ils faisaient le pain, tout était fait à partir de levain naturel maison. Et on leur a voulu leur faciliter la vie en incorporant des levures pour qu'ils gagnent du temps à dormir un peu plus, voilà, à faciliter leur confort de travail. C'est une bonne chose, hein, c'est sûr. Mais au final, on en perd le sens. Avant, le pain se conservait très bien. Et après-guerre, il s'est conservé beaucoup moins. On est parti dans des pains additivés, des farines très blanches. Et à un moment donné, le pain, dès le soir même, il est déjà...
Oui, mais dans les années 58, il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Duval, qui a lancé le fameux pain Duval, qui était fabriqué dans toute la France et qui se gardait 8 jours ou 10 jours. C'était du pain rempli des premières cochonneries. La famille Duval, le fameux pain Duval de la fin des années 50, début des années 60. Je voudrais saluer ici et remercier les Parisiens de nous avoir... puisque tu étais dans la région parisienne.
Oui, on est monté pour faire nos classes dans le monde de la boulangerie-pâtisserie. Idéalement, c'est d'aller dans les belles boutiques. Et puis les belles boutiques se trouvent pas forcément
là où on pense,
mais en fait, on va les trouver dans les grandes villes. C'est là où ça bouge beaucoup, c'est très dynamique. Donc les grandes villes comme Bordeaux, Lyon, Paris, et forcément Paris, on a aussi des pointures. Et donc c'est là où on apprend, et on a eu cette transmission.
Pougeran le Landais. Oui, qui était le successeur qui est un boulanger parisien.
Oui, d'accord, ok. Ouais, je connais pas après tout le monde non plus de la sphère de la boulangerie, mais c'est.
Il est des Landes, il est des Landes aussi.
Ouais. On a cette chance en France d'avoir quand même des très belles matières premières et des très beaux champs de blé. Et bien, essayons de revenir sur des choses simples, quoi, et surtout de ne pas s'intoxiquer. Arrêtons de manger des cochonneries dans nos pains. Donc nos matières premières, il faut qu'elles soient top. Et j'ai cette chance-là d'avoir pu grandir avec notre ancien patron, qui a pu me faire connaître des personnes et des fournisseurs qui étaient vraiment dans une démarche qualité. J'ai des producteurs d'exception, et que j'ai pu garder lors de l'installation, j'ai pu garder ce réseau-là, et ce qui me permet de vous pouvoir proposer des pépites. On a des pépites à vous montrer en boutique, comme des oranges confites de Corse, de M. Santini, c'est juste d'exception. On a M. Manouvrier qui nous fait aussi des fleurs cristallisées, qui est à côté de Sarlat. C'est juste de l'orfèvrerie, des fleurs cristallisées, c'est génial. Et on a des très très belles noisettes du Lot-et-Garonne, qui est juste à la frontière, juste à côté de Montségur, le long de la vallée du Drô, et forcément le pruneau, parce que moi je suis fils de pruniculteur. Donc j'ai fait, lors de mon apprentissage en pâtisserie, j'ai fait un mémoire autour du pruneau, parce que pour moi ça me tenait à cœur, parce que je suis né un 24 août 84, et cette année c'était le premier jour de récolte des prunes de chez mes parents. Voilà, c'est le lancement de la récolte de prunes, c'était donc pour la petite anecdote.
La fameuse prune de Damas.
Oui, c'est ça, tout à fait. Et donc l'idée c'était de faire un gâteau qui représentait notre terroir, et je voulais le faire sous forme de béret, qui reprend l'identité de notre beau pays, et donc c'est une pâte gasconne au cacao noir intense, comme le béret traditionnel, et avec dedans il est fourré de pruneaux moelleux de la région, du coin forcément, et des noisettes du coin.
Il est devant le gâteau, je vais vous dire qu'on va être obligé de couper l'émission, parce qu'on va se jeter dessus. Le professeur Sarri qui est en train, à quatre pattes, en train de sortir la langue, on dirait un boxeur qui vient de faire une course avec une voiture de Formule 1. Il y a ma petite madame Aucher, Sylvie, qui en tremble. Et puis, il y a une pépite dans le studio. C'est l'épouse Stéphanie de Michael. Une pépite, la plus belle pépite que je n'ai jamais rencontrée. Je continue de faire des compliments. Donc, Montségur, le béret gascon, un lieu de rencontre, un lieu d'échange. Et j'aimerais que Stéphanie, l'épouse de Michael, nous explique un petit peu comment ça se passe en boutique, la réaction des clients, comment ça se passe.
Eh ben, en général, on va dire que les clients sont contents parce que on a une boulangerie qui sort un peu
de l'ordinaire.
On va dire que j'aime beaucoup les styles des années 40-50, donc il y a toute une identité, il y a ma culture mexicaine qui est mélangée à cette magnifique culture française, donc on arrive à créer des produits un peu franco-mexicains. Notamment la petite viennoiserie que vous avez là, donc c'est notre concha, qui veut dire coquillage, donc c'est la viennoiserie de mon enfance. Et c'est comme je disais, le croissant en France est emblématique, nous la concha c'est emblématique au Mexique, et c'est une brioche au levain de lait, donc qui est très moelleuse, et par-dessus vous avez une croûte de sucre très friable, mais qui équilibre le sucre entre la brioche et le dessus. Et ça se conserve bien et on se régale.
Alors vous savez que le croissant n'est pas français, il vient de Turquie à l'origine.
Oui.
Et que le viennoiserie venait de Vienne. Et malheureusement, pendant la guerre de 40, tout ce qui était viennois ne s'est pas bien plu en France. Parce que tout d'abord Hitler est né en Autriche. Et les Autrichiens ont fait copain-copain avec les Allemands. Donc il y a des recettes qui ont disparu, notamment le pain viennois, l'escalope de veau viennoise. L'escalope de veau viennoise, on a échangé la couleur de l'olive pour qu'elle devienne l'escalope de veau liégeoise. Pareil pour le café viennois qui est devenu le café liégeois. Tout ça, c'était par rapport à la guerre et à l'association des Allemands avec les Autrichiens. Il n'était pas de bon ton d'appeler ça viennois. Bon, après, bien entendu, il y a eu Sissi Impératrice, il y a eu les films, donc on a refait copain-copain avec les Autrichiens. Mais sachez que ça vient de là, les viennoiseries venaient de cette ville de Vienne, et le croissant est originaire de Turquie. Merci, il nous reste quelques minutes. Alors, quelques minutes, on va terminer avec une chanson. Donc je voudrais remercier Madame Aucher, Sylvie, d'être venue et d'adhérer bien entendu à son association et de venir donner votre sang, c'est très important. Jean Saric, quelques mots pour Sainte-Présentine. Rendez-vous tous à la mairie de Cagnières.
Je vais rajouter sur Frontenac, la famille Saillant, il y a un fils qui s'appelle Nicolas Saillant, qui est boulanger, et il fait lui-même son blé. C'est une autre façon, donc ça s'appelle les paysans boulangers, donc il a les terres familiales à côté de Sainte-Présentine. Il fait son blé, il fait sa farine avec des moulins particuliers. D'accord. Il m'a expliqué, je ne sais plus quoi, un moulin très fin qui ne chauffe pas. Enfin, voilà, un moulin strié. Enfin, bon, vous connaissez ça mieux que moi. Et moi, j'achète mon pain chez un paysan boulanger.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est une autre façon de revenir à la nature. Mais lui,
il fait son blé dans les deux sens.
Absolument.
Il fait son blé avec du blé. Donc, le béret gascon, je voulais que l'on écoute un dernier petit morceau de musique. C'est une des plus belles interprétations d'une chanson d'homme par une femme. C'est Thérèse Montcalm qui chante une chanson, mais alors à la perfection, c'est à écouter en priorité. Thérèse Montcalm qui chante la chanson « C'est extra » de Léo Ferré. Et je peux vous assurer que c'est un moment de pur bonheur, mais on ne connaît pas Thérèse Montcalm en France. Allez, bon week-end à vous toutes et à vous tous. Cette émission sera rediffusée vendredi prochain à la même heure et en podcast ensuite. Nous vous aimons, nous vous adorons, vous faites des gros bisous. Merci monsieur le professeur Saric, merci madame Aucher, merci le Béret Gascon, merci à toi Stéphanie, merci à toi Michael. Oui, vas-y Michael.
La chocolatine escalée grâce à l'équipe et pas forcément qu'à Stéphanie et Michael. Donc merci à toute l'équipe pour votre investissement.
Nous remercions l'équipe de la pâtisserie boulangerie le Béret Gascon
et la chocolatine
et toute l'équipe qui participe bien entendu à la renommée de cette entreprise. Merci Thérèse Montcalm, c'est extra, un morceau de musique, on y va, on vous aime mes amours, bisous, câlin.
Comme un fuseau qu'aurait du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matelot, une fille qui tangue un air anglais. C'est extra, les maudits blues qui chantent la nuit, comme un satin de blanc marié dans le port de cette nuit. Une fille qui tangue et vient mouiller. C'est extra. C'est extra. C'est extra. C'est extra. Cheveux qui tombent comme le soir. Il y a de la musique en bas des reins. Ce jazz qui jazz dans le noir et ce mal qui nous fait du bien. C'est extra, des mains qui jouent de l'arc-en-ciel sur la guitare de la vie, puis ces cris qui montent au ciel comme une cigarette qui brille. C'est extra, c'est extra, c'est extra, c'est extra. Qui coule ma chanson. C'est extra. Et sous le voile à peine clos, cette touffe de noir Jésus qui ruisselle dans son berceau comme un nageur qu'on n'attend plus. C'est extra. C'est extra. C'est extra, oh, c'est extra. Une robe de cuir, comme un oubli, qu'aura du chien sans le faire exprès. Et dedans, comme un matin gris, une fille qui tangue et qui se tait.